Ça, j'espère que ça ne te dira pas trop. Que ma mémoire ne va pas me faire défaut, me fait souvent défaut. J'ai remarqué que je faisais quelques erreurs dans les dates, surtout ces derniers temps. C'était vraiment pas formidable. On parle de prophétie. Alors, les dates sont quand même importantes pour ce qui concerne l'histoire, au moins. Hein. Et j'ai fait quelques erreurs à des moments donnés sur. La position du prophète Ésaïe, etc., là, tous les événements, j'ai fait des confusions. Pardonnez-moi. Alors, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, regardez la petite expression ici, « en ce jour-là ». Plusieurs me diront « en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En ce jour-là, on va parler de ce « en ce jour-là » ce matin. On a vu qu'il y avait des prophéties de Jésus qui s'étaient accomplies. La plus marquante étant l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Et là, on va voir les prophéties qui restent à s'accomplir, sachant que si les prophéties que Jésus, un grand nombre se sont accomplies, donc les autres vont s'accomplir aussi. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, ce jour-là. Alors, j'ai classé un petit peu. On va toujours rester dans Matthieu. On ne va pas trop s'éloigner dans la Bible. On va rester dans le texte de Matthieu. Et on va lire chapitre 16, 24 à 28. Je vais faire la lecture. J'ai noté ici, « Ceux qui auront donné leur vie à Jésus seront dans la gloire en ce jour-là, dans le jour du retour de Jésus. Ceux qui auront donné leur vie à Jésus seront dans la gloire en ce jour-là. » Lecture, Matthieu chapitre 16, 24. Oh, je vais peut-être sortir le masque. 24 à 28. Chapitre 16, 24 à 28. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il se charge de sa croix, là c'est une image bien sûr, le chemin de la croix, c'est le chemin qu'a tracé Jésus pour chacun de le suivre, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Perdre sa vie avec Jésus aujourd'hui, c'est en quelque sorte échapper au jugement de demain, en suivant Jésus à la croix, on se juge soi-même et on accepte le salut qui est proposé par Jésus-Christ pour être sauvé. On dit aussi conforme à Jésus dans sa mort, conforme à Jésus dans sa résurrection. Et par rapport au verset 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. On peut dire, mais Jésus n'est pas encore revenu. Et alors, qui sont ces personnes qui doivent, qui étaient avec Jésus qui étaient là et qui ne sont pas morts? Bon, la prophétie de Jésus, il est écrit, quelqu'un ne pourront point ici qu'ils ne pourront voir. Ne pourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme. Et s'agit de le voir. Et là, dans le texte grec, c'est un temps qui exprime une action ponctuelle. De le voir ponctuellement. Et c'est vrai qu'immédiatement le texte, après, Pierre, Jacques et Jean montent sur la montagne. Et là, ils voient Jésus transfiguré. Ils le voient vraiment de leurs yeux transfiguré. Plus tard, l'apôtre Jean, qui est resté très très longtemps sur terre, il y a une note, l'apôtre Jean rapporte une note à la fin de son évangile que vous connaissez peut-être. Il a eu la vision du retour de Christ. Il a été monté dans le ciel et il a vu la gloire de Jésus-Christ ressuscité, la gloire de son retour. On peut faire une quatrième remarque, c'est que si le texte de l'évangile de Matthieu était une invention humaine, voilà quelqu'un qui aurait des siècles après écrit cet évangile, la génération d'après, ne serait-ce que la génération d'après, elle aurait dit non, je ne vais pas mettre cette phrase. Et cette phrase ne figurerait pas dans nos Bibles. Non, Jésus voulait vraiment que ses disciples s'attendent à son retour de leur vivant. Tournons quelques pages. Matthieu chapitre 19. Dans ce même registre, ceux qui donnent leur vie à Jésus seront dans la gloire au jour de son retour. Matthieu 19, versets 27 et 30. Pierre, prenant la parole, dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? Qu'en sera-t-il pour nous ? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque, ça c'est pour nous tous, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Il est noté ici « quiconque aura quitté hein, ». Il n'est pas noté « quiconque aura abandonné ». Il ne s'agit pas d'abandonner sa famille, il ne s'agit pas d'abandonner sa femme, il ne s'agit pas d'abandonner ses enfants ou ses parents. Mais les quitter pour suivre Jésus, ça a été le cas de Pierre. Il a quitté sa famille, il avait été marié pour suivre Jésus et on apprend dans les épîtres plus tard que dans la suite de sa vie, ben, la femme de Pierre l'a accompagné dans tous ses déplacements plus tard. Donc il s'agit ici de donner à Jésus la première place et de savoir ce qu'il attend de nous. Mais en tout cas, il y a forcément pour chacun d'entre nous suivre Jésus, c'est vraiment il y a des choses dont on va se séparer. Hein. Ce ne sera pas forcément pour tout le monde la même chose. Donc, la croix aujourd'hui, la gloire demain. Il faut donner son cœur à Jésus aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Sans attendre. Sans attendre. Alors, le retour de Jésus, ce sera comment? Comment sera le retour de Jésus? Eh bien, il en a parlé, Jésus. Il en a parlé longuement, il y a deux chapitres qui parlent de ça et on va lire ces deux chapitres. On va faire ce grand exploit. J'espère qu'on aura le temps et que ça va bien se passer. J'ai préparé quelques images, mais au début là, on n'aura pas d'images, après on aura des images pour les enfants. Donc un peu de patience les enfants. On va lire les 21 chapitres, Matthieu 24, donc les 21 premiers versets. Matthieu 24, de 1 à 21. Alors, il y a un grand chapitre là. Tu pourras faire la lecture, Fallon, courageusement. Ça tombe en plein au verset 21. C'est au milieu de mon paragraphe. Moi, on coupe dans un paragraphe là. Alors écoutez bien, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, donc essayez de bien suivre ce texte et les, vraiment les grands, on ne peut pas s'attacher trop aux détails, mais aux grands messages d'ensemble. Écoutons le Seigneur nous parler.
Quand Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, pour lui en faire remarquer les possessions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur une roche ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour voir son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez-vous que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qui n'en aura jamais.
Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens font remarquer que les persécutions qu'il y a eu sous Néron à Rome en 67, et on en a parlé la semaine dernière, la destruction de Jérusalem en 70 par les armées romaines ont accompli littéralement plusieurs points qui sont relevés dans cette prophétie. Mais on voit que la suite du texte particulièrement ça cale pas complètement, et donc il y a encore des choses à venir, et tout ce qui est décrit ici, on peut également supposer que ça va se reproduire une nouvelle fois, comme ça s'est passé en 70 et peut-être de façon encore plus dramatique. Alors lisons la suite maintenant. Du verset 22 au verset 31.
Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme les guerres partent de l'Orient et se montrent jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Alors, il y a deux choses claires dans ce passage, c'est que le retour de Jésus se fera dans de moments de détresse. Il va revenir à un moment de grande détresse. Et il y a autre chose qui est bien claire, c'est que tout le monde le verra. Tout le monde verra, ce sera clair pour l'humanité entière. Le retour de Jésus ne passera pas du tout inaperçu. Il y a deux façons de voir les choses. Les chrétiens ne sont pas unanimes. Il y a des chrétiens qui voient la période de l'Église comme une parenthèse. C'est-à-dire que l'Église ne vivra pas ce qui est décrit ici en Matthieu chapitre 24. Et d'autres qui disent, mais il n'y a aucune raison que l'Église ne le vive pas. Quand on lit le texte ici, on voit que, l'Église, il n'y a rien pour dire que l'Église ne va pas le vivre. On verra. En tout cas, ce qui est clair et ce qui est sage, c'est de se préparer à des temps de détresse et de se préparer à souffrir. Et de se préparer à souffrir la persécution. Quand on regarde l'histoire, il y a eu des persécutions sous Néron, c'est vrai, mais ça n'est pas arrêté là. Dans les premiers siècles du christianisme jusqu'à Constantin, les chrétiens ont été globalement persécutés. Et à la Réforme, au moment de la Réforme, avant la Réforme, pendant la Réforme, après la Réforme, il y a eu des persécutions également, des bûchers qui ont brûlé pour livrer aux flammes des personnes qui ne voulaient pas renier leur foi en Jésus-Christ et en sa parole. Et jusqu'à dernièrement, vous savez, cette persécution continue. On a regardé ça ensemble la semaine dernière. Donc il est sage de se mettre à l'idée que, voilà, je suis chrétien, les souffrances, elles sont, vont être pour moi. Elles sont pour moi. Se préparer à vivre des temps de persécution et des temps très difficiles. Je pense que c'est sage de le faire et c'est raisonnable. Quelle que soit la façon dont on comprenne les prophéties liées au retour de Jésus. Alors, il y a quelque chose qui est certain, c'est que Jésus sera avec nous dans cette souffrance et ces persécutions. C'est ce qu'on voit dans le témoignage de l'Église, de tous ces martyrs qui ont rendu témoignage, qui sont traversés ces moments de quand ils disaient qu'il fallait aller au bûcher, etc. Dieu était avec eux. Selon les illustrations qu'on trouve dans la parole de Dieu, par exemple avec l'histoire des camarades de Daniel qui était dans la fournaise, ou de Daniel qui était dans la fosse au lion. Jésus avec nous à travers tout ce que nous vivrons. Il est fidèle et il est juste. Les petits dérangements qu'on a donc... Ouais, il faut mettre le masque pour venir à l'église. Moi, j'aime pas mettre le masque. Mais que c'est rien, ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout si on s'arrête aux petites difficultés que l'on a pour vivre notre foi. C'est rien par rapport à ce que nous devons être appelés à vivre. Et l'histoire française, on a bien étudié la persécution ensemble. L'histoire française des Huguenots montre que c'était des gens qui avaient beaucoup souffert, qui étaient vraiment discriminés, qui ont vraiment supporté tout ça avec une grande persévérance. Mais quand ils ont entendu le bruit des bottes des dragons, quand la persécution s'est fait, est devenue physique, ah ben, y en a beaucoup qui ont tout laissé tomber. Hein. Et donc c'est une mise en garde pour nous. Hein. Ne nous croyons pas, voilà, à l'abri de persécutions, même aujourd'hui au XXIe siècle. Armons-nous de cette idée. C'est sage de le faire. Alors, le retour de Jésus, ce sera dans des moments de détresse, ce sera visible par tout le monde. Mais ce sera quand ? Jésus en parle maintenant. Alors, versets 32 à 46.
Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas.
Vas-y, jusqu'à 46.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent,
c'est le... Oui, c'est la cafetière, il faut couper. Il faut couper la cafetière, Jacques. Il faut appuyer sur le bouton qui s'allume, sur le compteur
Linky.
Alors, on en est où ?
Alors, verset 38.
Oui.
Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. humains et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre l'équipe. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre l'équipe. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Quand est-ce que Jésus viendra? À l'heure où nous n'y penserons pas. À l'heure où nous n'y penserons pas. Alors on ne sait pas quand ce sera. Ce sera de façon soudaine, imprévisible. Et quand le Seigneur viendra, ce sera trop tard pour faire des décisions ou dire non, on voit là, une personne part, une personne reste. Il n'y a pas le temps de donner sa vie à Jésus à ce moment-là. C'est trop tard. Le temps sera trop court. On ne pourra pas donner sa vie à Jésus au moment de son retour. C'est le grand enseignement. On ne sait pas quand ce sera et on aura le temps de rien faire. Ce sera brusque, donc il faut être prêt. Il faut être prêt. Il est remarquable qu'au verset 14, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. » Mais on peut penser, cette génération ne passera pas. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies avec le jugement de Jérusalem dans cette génération-là, mais le Seigneur n'est pas revenu. Alors, comment comprendre cela? Bon, le mot « génération » peut avoir plusieurs sens dans le texte grec, et ça, on peut voir ici le sens de cette génération, c'est-à-dire... tel que c'est actuellement, Jésus est rejeté, jusqu'à ce qu'il revienne, ce sera toujours la génération des personnes qui rejettent Jésus qui sera là en place. La génération de ceux qui ne veulent pas de lui sera là. Il ne se passera rien d'autre. Tout se restera, les gens resteront comme ils le sont au moment où ça s'est passé. Toute l'histoire du christianisme s'est déroulée et de ce côté-là, les gens n'ont pas changé. La situation n'a pas changé par rapport au temps de Jésus. Et au temps, pendant tout le temps de l'Église, rien n'a changé. Donc, c'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre cette parole de Jésus ici. Dans le retour de Jésus, ce sera quand? Il l'a dit lui-même. Ce sera de façon soudaine. Et il a dit, ça n'a pas été révélé au Fils, cette date-là. Donc, à combien plus forte raison ce ne sera pas révélé en nous. Alors, que faire en attendant le retour de Jésus? Que faire en attendant le retour de Jésus? Verset 45. Quel est donc, tu peux conduire la lecture, Fallon, de la première de ce texte, 45 à la fin du chapitre.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que ce maître, à son arrivée, trouvera faisant tellement, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un faux serviteur, il dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, qu'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas.
Parabole, qu'il faut être fidèle, personnellement, servir Jésus avec fidélité. Ensuite, l'autre parabole, c'est les paraboles des 10 vierges. Alors, jusqu'au verset 13 de notre texte. Alors, les 10 vierges, je les ai ici avec les images. Voilà.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile avec des vases. Comme les plus tardés, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criait « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour nous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les 10 autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors là, il s'agit de se préparer à une longue veille personnelle. Toutes les vierges étaient sûres que Jésus allait revenir, que l'époux allait revenir. Mais il y en avait qui disaient, certes, il va revenir, mais il va peut-être revenir tard. Il va peut-être tarder, il va peut-être passer beaucoup de temps. Et donc, elles ont été sages et ont pris de l'huile avec elles. On voit aussi dans cette parabole qu'il est impossible de s'appuyer sur les autres, de compter sur les autres. Vous savez, quand on est une église, on est une communauté et on se soutient les uns les autres. Et on en trouve de l'aide dans l'église et des fois c'est cool. Mais en ce jour-là, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut vraiment personnellement être prêt. Personnellement, il faudra avoir sa lampe allumée ce jour-là. La parabole suivante maintenant. Que faire en attendant le retour de Jésus? Le servir fidèlement, se préparer à une longue veille et ne pas compter sur les autres. Ensuite, versets 14 à 30.
Voilà, on doit avoir aussi. Voilà.
Versets 14 à 30. Pardon.
Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir.
J'ai un petit problème. Désolé, ça ne marche pas, les enfants. Bon, on va les mettre petites, c'est pas grave. Voilà.
Allez, on y va. Donc, on est dans cette image-là. On peut continuer, Salon.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chaque fois, selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Il apporta 5 votre talent. Et il dit,
mon talent.
Regarde l'image, Maëlia.
Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne, où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'avais pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Voilà, une mise en garde sévère. Hein. Donc on a la responsabilité, là aussi personnelle, de faire fructifier ce que les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Hein, toutes ces capacités qu'il nous a confiées, qu'il nous a données, on a une responsabilité personnelle, et là aussi c'est personnel, de les faire fructifier. On a reçu selon nos capacités, et voilà. Ce sera formidable ce jour-là d'entendre Jésus parler ainsi. Que faire en attendant le retour de Jésus? Le passage suivant, versets 33 à 46, est un petit peu décalé par rapport aux autres. On va le prendre dans le sens de que faire en attendant le retour de Jésus, nous, aujourd'hui. Bon, c'est plus une parabole, donc peut-être qu'il se rattacherait davantage à ce qu'a dit Jésus à la fin du chapitre 24. Mais, bon, on va le lire ensemble. Si je peux encore te solliciter, Fallon, ça ira.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Et avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas visité? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de vos enfants, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
Voilà, donc vous avez vu les répétitions du texte. Hein. C'est trois fois, le texte répète les mêmes choses. J'étais malade, j'étais en prison, j'étais nu, j'avais soif, j'avais faim, et vous n'avez rien fait pour moi. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Trois fois c'est répété. Il est question ici de toutes les nations assemblées, donc on peut voir le jugement final. La question de séparation des brebis et des boucs. Normalement, les boucs sont peu nombreux dans un troupeau. Et quand on regarde un petit peu M. Gatineau, qui a été berger professionnel, il dit que les boucs, ils ont tendance à monter sur les brebis, et ce sont des animaux qui sont très proches, et ça, c'est pas du tout bien, ça va pas du tout de faire ça. Et donc, quand c'est le moment, il faut les séparer, il faut pas les laisser dans le troupeau. C'est difficile à comprendre. Pour moi, j'ai eu du mal à comprendre cette parabole. Mais ce que on peut retenir de certains, c'est que Jésus a une grande soin et attention la façon dont on traite les petits, la façon dont on traite ceux qui sont défavorisés et parmi ses frères, il dit. Bon, qui sont mes frères? Ça, c'est toute une question, bien sûr, mais si on a le souci, en attendant Jésus, des faibles, des petits, comme on a vu dans Ésaïe, les questions sociales, les questions de s'occuper des malades aussi, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, etc. Si ça, vraiment on a de l'amour pour eux, de la préoccupation, ce sera une saine activité que de faire cela. Hein. Jésus a beaucoup insisté là-dessus. Il y a un texte parallèle d'Ézéchiel chapitre 34 où il est question de brebis qui sont grasses et de brebis qui sont maigres. Et les grasses, elles empêchent les maigres de venir boire, elles souillent l'eau, elles piétinent les meilleurs pâturages. Et le maître, il dit, le bon berger arrive et il dit, je vais débarrasser toutes ces brebis grasses. C'est un texte parallèle, mais qui a ce même message. Il faut faire vraiment attention à cela. En tant que, personnellement, comment je considère ceux qui sont dans le besoin, quel que soit ce besoin par rapport à tout ce qu'on a lu ici, est-ce que je suis un chrétien égoïste ou est-ce que je suis un chrétien généreux qui aime les petits, hein? C'est quelque chose qui doit vraiment nous faire réfléchir également. Alors les applications de tout cela maintenant, bien sûr, l'important c'est de donner son cœur à Jésus. La question qui se pose, est-ce que j'ai donné mon cœur à Jésus? Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Les prophéties de Jésus se sont accomplies sur sa mort, sa résurrection. C'était des prophéties incroyables. Jésus, il est certain qu'il reviendra et il demandera des comptes à tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourra dire en ce jour-là? C'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant que la Bible dit le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut dire à Jésus, viens habiter dans mon cœur, je veux te suivre, même s'il faut que je souffre, même si c'est difficile, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ceci et cela, et mes copains, et mes camarades, et mes frères, et mes sœurs, et mon papa et ma maman. Mais il y a une décision à prendre, je vais suivre Jésus. et le faire avec persévérance jusqu'à ce qu'il revienne avec une attitude de l'attente, de fidélité dans le service, hein, et de savoir qu'il peut tarder et de se préparer à cela. Ça peut être long, l'attente de Jésus. Et jusqu'à présent, il y aura 2000 ans qui se sont passés. Mais Jésus veut qu'on l'attende comme s'il allait revenir bientôt. Je viens bientôt. Donc, comment on fait pour recevoir Jésus dans son cœur? Eh bien, il faut lui demander. On fait une prière. On demande pardon à Jésus. On lui dit, voilà, je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Je te demande pardon. Je te demande de venir prendre mon cœur et prendre ma vie. Et de me prendre et de m'accepter dans ton ciel. Voilà, je sais que je ne le mérite pas, mais tu l'as promis. Me voici, je viens. On va chanter un chant pour terminer qui parle du retour de Jésus. Où iras-tu quand Jésus viendra? Deux cent vingt-cinq. Où iras-tu quand Jésus viendra? Où courras-tu quand il reviendra? Où pourras-tu trouver un abri en ce jour-là? Et ce sera trop tard. C'est ce que dit le texte. Mais maintenant, c'est possible. C'est ce que dit le chant. Attention, je crois que je calcule toujours pour que ça fasse 30 minutes et toujours je dépasse.